en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
La vertu, tel était le thème de la journée d'études organisée à l'Académie des sciences morales et politiques le 12 décembre 2007 à l'initiative du Centre de recherche en théorie générale du droit. Plusieurs académiciens et juristes sont intervenus, successivement Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Cernin, Jean Tullard, Alain Chartier et Philippe Mallory. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de leurs interventions. Dans cette émission, Canal Académie vous propose d'écouter maintenant Philippe Mallory, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas, Paris 2. Il avait intitulé son intervention « Les vertueux et les médiocres ». Il démontre que les excès de vertu peuvent devenir sanguinaires, que trop de vertu tue la vertu et qu'elle a généré, l'histoire l'a montré, de nombreux comportements tyranniques et régimes totalitaires. Par contre, que faut-il entendre par la voix médiocre ? Découvrez cette médiocrité qui n'est pas sans vertu en écoutant Philippe Mallory.
Le régime de l'intolérance, du fanatisme, des intégrismes, qu'elle devient haineuse et qu'elle appelle la terreur. Autrefois, c'était Torquemada, Savonarole que vous avez évoqué tout à l'heure, Robespierre que nous avons entendu, et puis hier ce fut Lénine, Staline, Pol Pot, aujourd'hui les ayatollahs, les talibans et tous les nombreux autres islamistes, une donnée permanente de l'histoire qu'amplifient les révolutions éprises par nature du culte de la vertu. Les fondamentalistes de la vertu sanguinaire ont chacun un visage différent. Certains voudraient imposer un retour à un lointain et mythique passé, celui qu'évoquait M. Tullard, Jean-Jacques Rousseau, le bon sauvage. Les Khmers rouges ont aidé au culte de Jean-Jacques Rousseau. Ils ont, en quelques jours, vidé de leur population citadine toutes les villes du Cambodge pour soumettre leurs habitants à la régénération mortelle des rivières et des forêts. Au contraire, les léninistes avaient exalté les mythes de l'industrie, de l'électricité. Ils ont, comme Pol Pot, rempli les camps de travail soviétiques presque aussi mortels que les rizières de Pol Pot. Haute diversité de la vertu fanatique. Ben Laden, les terroristes de l'islamiste, voudraient imposer l'islam obligatoire à tout l'univers, au contraire de l'athéisme forcé du stalinisme. Ce sont là de multiples visages, mais aussi des données constantes et récurrentes, congénitales aux fanatiques de la vertu. Le règne du totalitaire, ne supportant aucune autorité rivale, l'endoctrinement de la jeunesse, le massacre de millions d'innocents, la purification morale du présent où il ne voit que corruption, dépravation, aliénation, le rigorisme moral absolu, la pauvreté pour tous, le lavage des cerveaux et des hommes. Plus les temps s'écoulent, plus le culte de la vertu devient absolu et plonge de plus en plus dans la terreur. Al-Qaïda est plus cruel que les Khmers rouges, qui eux-mêmes l'étaient plus que la révolution culturelle du maoïsme, qui, elle, l'était plus que les stalinismes, qui lui-même l'était plus que les jacobins, qui eux-mêmes l'étaient plus que les bûchers de l'Inquisition, le fanatisme de la vertu est une spirale sans fin dans la terreur. La violence mortelle que provoque le radicalisme de la vertu, le fanatisme n'en est pas la seule cause. Il y a aussi la nécessité publique. De temps en temps, le bien public impose au nom de la vertu la subversion de cette même vertu. Montaigne, qui a tant exalté l'humanisme, la fidélité au droit, à la coutume, aux impératifs moraux et religieux, a eu un mot déshonorant lié à son temps, la Saint-Barthélemy. Le bien public, dit Montaigne, requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre. Vous avez bien entendu, le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre. On croirait entendre George W. Bush, qui, dans son combat contre l'axe du mal, a multiplié les mensonges au nom de la vertu et de la démocratie. La trahison, le mensonge, le massacre sont les retournements mortels auxquels mènent l'humanisme et les droits de l'homme. Le vice peut être une vertu et inversement, la vertu un vice. J'en reviens encore à Montaigne, qui quelques lignes avant ce curieux éloge du mensonge, de la trahison et du massacre, dit que, en tout état, il y a des offices nécessaires, non seulement abjects, mais encore vicieux. Les vices y trouvent leur rang et assurent le venin, assurent la couture de notre liaison, c'est-à-dire établissent le lien social, comme les venins à la conservation de notre santé. Le vice est un remède nécessaire pour guérir les maux sociaux, et l'étymologie grecque nous le dit, pharmakon est un médicament et un poison. Se dessine ainsi un étrange parallèle entre le droit et la vertu. La vertu, dans son cœur, on nous l'a assez dit ce matin, est un bien absolu. Saint Augustin avait dit la place culminante parmi tous les biens humains. C'est ce qui fait un homme et sa grandeur, c'est sa vertu. Et l'étymologie qui a été évoquée ce matin ne nous trompe pas. Vertu vient de vir, un homme, un mari, un héros, un soldat, un combattant. Un homme sans vertu n'a pas ce qui constitue un homme véritable. Il n'a pas le courage, la vaillance, la domination de soi, la maîtrise du sens donné à sa vue. L'homme vertueux est un homme combattant qui ne craint pas ses convictions. Mais le courage ne suffit pas à faire la vertu. J'en donne un exemple entre mille. Les Waffen-SS ont, pendant la dernière guerre mondiale, témoigné d'un grand courage, mais sans vertu, c'est le moins qu'on puisse dire. Car la vertu n'existe que dans la recherche du bien. Aristote le disait déjà, elle a une dimension morale comme le droit. La même magnificence s'attache à la loi. Nous ne vivons que par elle. C'est elle qui défend la dignité de la personne. Sans elle, nous ne sommes pas grand-chose. Les psaumes ont chanté sa beauté, et Jean-Jacques Rousseau l'adorait, mais d'une autre manière, une divinisation de la loi. Avec Jean-Jacques Rousseau, on est revenu au nom de la vertu, au fanatisme. Voilà donc que dès leur première vue, la vertu et la loi entrecroisent leur affinité, avec la même et constante ambiguïté. Toutes deux aspirent à l'absolu, au dépassement de soi, à la splendeur de l'homme, à la splendeur de la société, car aucune société ne peut vivre sans vertu, sans courage, sans ténacité, sans respect des convenances morales, des 10 commandements. Aucune société ne peut vivre sans droit, à peine de se déliter, de tomber dans le chaos, dans le règne des voyous, avec les infinies souffrances qui en résultent. C'est en développant leur vertu, en respectant la loi, que les hommes sont sortis de la barbarie. Mais la vertu n'existe que parce que vit le mal. Elle n'existe que parce qu'elle s'y oppose. Sans le mal, pas de vertu. Felix culpa, dit la liturgie catholique de la nuit pascale, magnifiée par saint Augustin. Pas de mal, pas de vertu. Pas de vertu, pas de mal. C'est encore du Montaigne. La vertu est une opposition. Elle ne peut, disait-il dans son langage, exister sans contrepartie. La vertu est un combat. Il en est de même du droit, qui n'existe que par la transgression. Une société utopique qui serait pleinement respectueuse du droit et de la vertu, en les vivant complètement, où tout le monde serait bon, actif et honnête, avec toutes les vertus possibles et imaginables, ne serait pas seulement une société où l'ennui suinterait de partout, mais elle ne conférerait pas ce qui fait à l'homme sa grandeur, son combat. Pas de mal, ni vertu, ni droit. Michel Villet l'avait dit naguère comme Montaigne. Fadeur de tous ces mondes de rêves où tout se passerait dans l'ordre, combien pauvre et statique que nous concevons, combien plus beau le monde réel, parce qu'il est mauvais, parce qu'il rend possible la souffrance et le courage et l'existence de toute vertu. Supériorité de ce monde à tous ceux que nous concevons, parce que notre monde est mauvais, tandis que le bien que nous concevons, c'est l'extrême platitude et l'anéantissement de l'être. On peut aussi associer à Montaigne et à Michel Villet Mozart dans le duo victorieux de Pamina et Tamino qui termine la flûte enchantée. Nous avons traversé le feu tout embrasé avec courage, triomphé du danger. La flûte enchantée, c'est le pouvoir de vaincre le mal incarné par la reine de la nuit. Ce qui rend sublime ces phrases un peu plates, c'est la musique de Mozart, car en eux-mêmes, le droit et la vertu n'ont ni charme, ni grâce, ni éclat. Ils n'en ont que parce qu'ils naissent d'un combat qu'à tout moment, les hommes engagent en eux-mêmes et contre eux-mêmes, contre le désordre et le mal, un combat sans cesse perdu et sans cesse recommencé. Dans sa démesure, la vertu mène à l'intolérance, au fanatisme, à l'horreur, à la terreur. À l'inverse, lorsqu'elle est refusée et ignorée, elle suscite le chaos Et j'en reviens à ce qu'a dit M. de Saint-Sernin. Ni trop, ni pas assez. C'est la grande devise des hommes. Leur morale, très simple, leur morale courante, celle d'Aristote. Et, puisqu'ils ont été évoqués aussi ce matin, c'est le dogme des grands moralistes, dont certains ne sont guère suspects d'accommodement. Pascal, la vertu, c'est l'entre-deux. Saint Augustin, c'est la sophrosyné, c'est la temperantia. Et surtout, Aristote et Montaigne, les hommes de la modération. Pour l'un, et ça a été dit ce matin, la vertu est un milieu. Et pour l'autre, c'est du Montaigne. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage, ni trop, ni pas assez. C'est d'abord le premier des accommodements, celui qu'on doit à la nature, et puis les autres arrangements qu'on doit avec la vie, qui est imposée par les circonstances, par la vie, par le jour le jour. La voie moyenne, c'est, selon l'étymologie, la voie médiocre. Médiocre, dans son sens latin géométrique initial, c'est la voie qui se trouve au milieu, à mi-hauteur. Et puis l'étymologie lui a ajouté un sens moral, qui ne penche ni d'un côté ni de l'autre. La voie moyenne, la voie médiocre, dans son sens ancien, c'est donc une voie neutre, ni vicieuse, ni vertueuse, ni bonne, ni mauvaise, à mi-chemin, pas d'histoire. Hein. Telles étaient la morale d'Aristote, celle de Montaigne, la sagesse populaire, la morale des honnêtes gens, celle de la vie quotidienne, celle du juste milieu, ni rigoriste, ni laxiste. Elle a surtout été admirée au XVIIe siècle. Et puis aujourd'hui, elle est ridiculisée. Hein. Il n'y a qu'à entendre Georges Brassens qui se moque de la mauvaise réputation. Les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Elle est dénigrée aujourd'hui par tous ceux qui y voient la morale du rez-de-chaussée. Une morale sans hauteur, sans valeur, a dit Madame de Romilly. Le droit pullule aussi de cet esprit de moyen, de modération, de médius, de l'accommodement. La force majeure, telle que nos tribunaux la comprennent, ne demande pas aux débiteurs d'être Tarzan, Astérix, Tintin, Superman, Rambo ou le comte de Monte Cristo, des gens qui n'ont jamais existé. De même, les bonnes mœurs, celles des honnêtes gens, n'ont plus que le sens atténué du respect de la dignité humaine. Et récemment, la Cour de cassation a décidé, en assemblée plénière, que n'était pas contraire aux bonnes mœurs, qu'elle était donc conforme à la vertu, qu'un vieux polisson de 85 ans se fit pigeonner par une poule de 16 ans, qui était jeune, jolie et passablement délurée. Qu'il est bon aujourd'hui d'être médiocre selon la Cour de cassation. On est libre de se faire dépouiller par les catins. Tout le monde devient vertueux, enfin d'une vertu avachie, celle de la poulette et de son vieux croutin galopinant dans le même navire qui essuiera des tempêtes. C'est donc dans un esprit de modération circonstanciée et évolutive que s'apprécient aujourd'hui toutes les notions juridiques impliquant une donnée morale telle que la faute, l'abus de droit, le respect de la dignité de personne, l'éthique, etc. Le droit international public contemporain repose également sur le nouveau principe des nations qu'on ne doit pas vouloir changer contre leur volonté la nature des peuples en essayant de leur imposer des vertus qui leur sont étrangères. Les Américains l'apprennent actuellement à leurs dépens en Irak. Les jésuites l'avaient tenté au XVIe siècle en Amérique latine, au Paraguay, avaient échoué. Ils y avaient renoncé en Inde et en Chine, en procédant alors à la politique des accommodements qui a eu des résultats mitigés. Hein. De la même manière, les nations européennes colonisatrices ont avec douleur appris à décoloniser avec des résultats qui sont également mitigés. La voie moyenne serait-elle donc la voie médiocre ? Le mot de médiocre, aujourd'hui, n'a plus la neutralité qu'il avait dans son lointain passé. Il a pris un sens péjoratif. Quand Georges Bernanos a, en 1935, écrit que nous sommes tous des médiocres, ce n'était pas pour exalter la nature humaine, mais au contraire, pour lui rappeler sa condition misérable. Je récapitule. La tyrannie, venant de la vertu imposée, choque profondément, autant que la déliquescence résultant de l'absence de vertu. Peut-être moins que la médiocrité, fut-elle continue, qui sont devenues la morale, le droit actuel, la nature du petit bourgeois, du petit propriétaire, du petit boutiquier, Madame Boussicot, le français moyen du XXIe siècle, nos médiocres franchouillards. On ne haït pas et on n'a pas à haïr les petits bourgeois et les franchouillards. D'être petit ne rend ni haïssable ni indigne. Mais les petits bourgeois sont sans attrait et ennuyeux, car ils refusent le risque de la vie. Ce qui fait la beauté de l'homme, ce sont les risques qu'il prend par sa vaillance pour défendre la dignité humaine, la fidélité à l'esprit, son ouverture à l'aventure. Pas la médiocrité, dont les charmes qui existent, mais sont ailleurs. Sans doute faut-il et des vertueux et des médiocres. C'est notre pluralisme fondamental. Nous sommes tous des médiocres et nous avons ainsi de justes raisons d'être humbles vis-à-vis de nous-mêmes et miséricordieux à l'égard des autres. Et ridicule le mépris que portent aux médiocres les professeurs de vertu. Mais tout bien réfléchi, tout bien pesé, il n'est pas mauvais de préférer les vertueux sans fanatisme et sans arrogance aux médiocres sans visage et sans hauteur. Plutarque a été à plusieurs reprises évoqué à juste titre ce matin, rapporte dans la vie d'Alexandre le Grand, et cette fois j'utilise la traduction de Damiot, les plus hauts et les plus glorieux exploits ne sont pas toujours ceux qui montrent le mieux le vice et la vertu de l'homme. La médiocrité, sans doute, peut détruire l'essence de l'homme et son âme. La vertu, comme toutes les passions, a des masques hideux, mais l'une et l'autre sont la base même de la vie de l'homme, mais pas au même moment. La vertu ne vit pas dans l'intemporel. Dans la vie quotidienne, la vertu des vertus, c'est l'esprit de mesure, c'est la pondération, c'est le discernement, la voie moyenne. Dans les grandes épreuves et les circonstances exceptionnelles, la vertu des vertus, c'est le courage, sans mesure, le dépassement de soi. Et j'en reviens ainsi à Bernanos, mais en le corrigeant un peu. Dans la vie de tous les jours, nous sommes tous des médiocres. Et nous devons l'être, car notre grandeur et dans notre humilité et notre discernement. Mais dans les épreuves, nous devons être vertueux, sans mesure, car si l'épreuve ne nous grandit pas, elle nous détruit. Voilà, j'espère ne pas vous avoir empêché de déjeuner. J'ai terminé.
Vous venez d'entendre Philippe Mallory, ancien professeur de droit à Paris 2, s'exprimer lors de la journée d'études consacrée à la vertu. D'autres intervenants, académiciens et invités, Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Sernin, Jean Tullard et Alain Chartier, ont également été enregistrés et vous les trouverez dans notre médiathèque. Il suffit de taper le mot « vertu ».